Donc après cette très belle performance d'avoir exposé autant d'idées dans un temps si contraint, ça va être à vous de prendre le relais si vous avez des questions sur les actions à mener pour lutter contre le fascisme, toujours notre double liste, et si on pouvait avoir deux personnes, on en a une deuxième pour aller donner le micro, merci beaucoup.
Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de ce que tu pouvais faire sur le travail de la culture, que fait l'extrême droite.
Sur c'est pas moi qui prends les prises de parole, c'est la tribune.
Sur cette manière des boucs émissaires, et en particulier là, avec ton propos de l'instant, il y a eu cette question de la laïcité en fait. C'est une figure, je crois, que Benoît Coquart mobilise beaucoup dans sa sociologie, et qui a l'air d'être très mobilisatrice pour l'électorat de l'extrême droite, justement, ou de la droite. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est la laïcité, je veux pas en être. Donc, voilà. Et pour les syndicats, nous qui sommes sur la lutte quand même aussi liée au travail, cette question me semble fondamentale. Quelles peuvent être les stratégies pour essayer de s'attaquer un petit peu à cette figure de la laïcité, de la déconstruire en fait pour les gens, parce qu'elle est quand même minoritaire en réalité, si elle existe réellement.
Vous avez beaucoup insisté sur le racisme qui est présent dans l'extrême droite, moins sur la haine du pauvre.
Vous avez pas mal parlé de radicalité et de... et d'unité donc au sein par exemple
les gens,
des élections
à moi directement, et comme c'était demain, je leur ai dit non.
De ne pas se focaliser sur les élections que sur la rue mais sur les deux, donc, ça super intéressant.
Oui,
vous avez un peu détaillé l'unité, la radicalité au niveau des élections, au niveau de la rue, quelle forme un peu de radicalité on peut prendre, sachant qu'on voit bien que la grève ou les manifs syndical, ça suffit pas, et je sais pas détailler, on n'a pas parlé des mouvements comme le 10 septembre au Contou, les Gilets jaunes, les groupes antifascistes, par exemple à Lyon, qui œuvrent sur le terrain dans la rue pour lutter contre le fascisme. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu détailler sur ces points? Merci.
Au milieu. On va sur l'intervention de la dame, on va clore les questions après, donc vous pouvez encore un peu lever la main, mais après il faudra qu'on arrête pour qu'il ait le temps et surtout qu'on puisse laisser Visa s'exprimer. C'est important, ils sont venus de Chambéry et exprès ils ont fait la route, ils sont levés super tôt, donc voilà. Et pour pas réduire le temps du repas partagé qui est important, qui est l'anti-canon, comment ils appellent ça, canon français, voilà. C'est pas 80 balles l'entrée et il y aura de tout à manger.
Bonjour. Ma question, alors j'essaie de la formuler, que répondre face à des arguments qui présentent la gauche comme une idéologie bisounours complètement déconnectée de réalité économique et qui va nous dire on est dans un monde de requins, vos belles idées, elles nous feront couler.
Une dernière question ici.
Dans l'argumentaire de l'extrême droite et de la droite, il y a la lutte contre la pseudo-écologie punitive. Il y aurait peut-être là un terrain à explorer ou à...
Beaucoup de choses. Oui, alors en fait, la question de l'assistanat ou de soi-disant assistanat et la figure construite médiatiquement, politiquement, depuis 40 ans en fait, de l'assister. Bon, ça permet par ailleurs, ça, je ne vais pas le développer trop, mais ça permettrait d'insister là encore sur le fait que le succès de l'extrême droite ne s'explique pas principalement par l'extrême droite. C'est que c'est toute une série, par exemple, de figures idéologiques en quelque sorte, qui ont été construites par d'autres forces, y compris par exemple donc des forces de droite. Et quelqu'un comme Sarkozy, par exemple, hein, a joué un rôle important, mais même avant d'autres, hein, Chirac, par exemple. Hein. On a gardé une bonne image, étrangement, de Jacques Chirac. Mais enfin, c'est quand même le gars du bruit et de l'odeur des immigrés. Enfin, bon. Et puis, bon, peu importe. Mais elle a été construite donc voilà par ces gens, et elle a été construite en fait, elle a été même la haine du pauvre, j'irai un peu sur ce terrain-là, c'est que elle existe évidemment, et elle existe souvent d'une manière racialisée, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel pauvre qui est en général dénoncé, c'est y compris des pauvres illégitimes qui ne devraient pas par exemple obtenir des allocations, parce que vous avez une partie de gens qui sont en quelque sorte, qui pourrait être englobé dans la catégorie d'assisté, qui pourrait se percevoir comme assisté, mais qui ne se, parce qu'il touche les allocations chômage, etc., mais qui ne se perçoivent pas comme assisté, parce qu'ils se perçoivent comme des Français de souche qu'on empêche en quelque sorte de travailler, parce que d'autres ont pris leur emploi, ou, et qu'eux se disent, bah, je suis chez moi, donc c'est normal que je touche des allocs, mais par contre, il y en a pour qui c'est pas normal, en quelque sorte. Et sans doute, ma situation serait meilleure si eux n'étaient pas là, quoi. Donc, je pense qu'il faut à la fois, effectivement, là encore, il y a des questions un peu d'articulation, sans profit politique automatique, c'est-à-dire sans que ça, tout de suite, d'un seul coup, ah, ça éclaire les gens, etc. Mais je pense que sur le long terme, c'est important de dénoncer aussi bien effectivement la construction de cette figure de l'assistanat qui en fait renvoie à la destruction progressive du système de protection sociale et à par ailleurs au renoncement à une politique d'emploi en fait, qui supposerait notamment une politique de recrutement par exemple dans les services publics dont on a terriblement besoin dans absolument tout. Les services publics, je veux dire, si vous comptez, enfin, c'est un strict exercice comptable que faisait le regretté économiste Michel Husson sur le CICE. Les dizaines de milliards d'euros consacrés au CICE auraient permis immédiatement de recruter plus de 500 000 fonctionnaires, par exemple. Et sans doute plus, hein, si on prend enfin, les montants, faites le calcul, y compris en intégrant évidemment les cotisations, etc. C'est assez simple à faire hein, comme calcul. Et donc vous résolvez déjà, et par ailleurs avec des effets keynésiens en quelque sorte sur l'économie ensuite, de relance de la consommation, etc. Enfin bon, mais évidemment, ce n'est pas le choix qui est fait, parce qu'en fait, il y a un renoncement à résoudre la question du chômage. Donc en fait, la question de l'assistanat, là encore, pour moi, ne peut être affrontée que si à la fois on va sur le terrain social, de comment ils ont construit idéologiquement cette figure-là, mais en lien avec une offensive très matérielle contre le système de protection sociale et contre le plein emploi, et en renonçant à résoudre la question du chômage de masse, etc., mais par ailleurs en attaquant aussi sous l'angle du racisme. Parce que une des choses qui accroît en quelque sorte le sentiment qu'il y a un assistanat illégitime, c'est que ceux qui touchent des allocs seraient en quelque sorte pas d'ici, pour l'essentiel pas d'ici. Et que ça, en quelque sorte, ça ajoute en quelque sorte à la haine du pauvre, parce que c'est un pauvre, en quelque sorte, on importe de l'extérieur, de l'étranger, qui ne devrait pas être ici, parce que d'une certaine manière, nous avons déjà nos pauvres à gérer, en quelque sorte. Bon, voilà. Donc je pense que, là encore, il ne faut pas compartimenter trop les choses. Il faut réussir à attaquer les choses sous ces différents angles et à les articuler. Contre la racialisation de l'assistanat et contre la construction de cette figure culpabilisante autour des chômeurs de plus ou moins longue durée, etc. Bon. Sur la radicalité au niveau de la rue, en fait, là encore, on ne va pas inventer la poudre. Il suffit, de mon point de vue, de regarder ce qu'on a vécu en France depuis même une dizaine d'années. On dit souvent qu'on perd. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défaites sur le terrain, notamment syndicales et notamment des mobilisations nationales. Parfois, il y a des victoires au niveau local, au niveau de telle ou telle entreprise. Il ne faut pas l'oublier, il faut davantage les publiciser d'ailleurs. Mais il y a eu quelques victoires. D'une certaine manière, là, les bassines, c'est un peu au point mort. Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas d'aéroport. Donc ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ce qui a manifestement constitué une je ne dis pas que c'est une victoire sur toute la ligne, je vois des deux délignements de la tête que je comprends, mais n'empêche qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une logique de front et d'unité entre, et Sainte-Soline aussi, entre des organisations paysannes, notamment la CONF paysanne, des organisations syndicales traditionnelles, CGT, Solidaire notamment, FSU sans doute aussi, des collectifs citoyens localement. Et c'est voilà, ce type de front-là, avec une pratique par ailleurs assez radicale d'occupation, de mobilisation, permettant notamment de faire vivre une certaine diversité des tactiques, comme on dit, c'est-à-dire des tactiques plus offensives, plus au contact effectivement des forces de l'ordre, et d'autres tactiques plus en quelque sorte de manifestations plus paisibles, y compris pour attirer d'autres gens qui n'ont pas forcément envie d'être bombardés de grenades lacrymogènes, voire de grenades offensives, des armes de guerre, etc., comme ça a été le cas dans la terrible répression de Sainte-Soline. Mais en tout cas, ça nous montre une certaine voie. Enfin, le Minnesota aussi. Là encore, logique de front, d'unité la plus large possible, et pratique d'occupation de la rue, et en quelque sorte presque de harcèlement, au bon sens du terme, des brigades de ICE. De dire on ne doit pas les laisser tranquilles, et les laisser tranquillement aller harceler les communautés immigrées dans notre ville. Voilà, ça donne déjà, je trouve, non seulement de l'espoir, mais aussi quelques idées générales sur le type de choses qu'on doit réussir à construire si on veut gagner. Et les mobilisations souvent qui perdent, c'est effectivement des mobilisations qui, souvent, pour plein de raisons, et pas de la responsabilité en général de ceux et celles qui les animent en réalité, mais des mobilisations qui malheureusement parfois restent isolées Dans le cas des mobilisations syndicales, le problème auquel on s'affronte, moi j'ai l'impression, mais de mon point de vue, c'est justement, vous avez dit des grèves, mais en fait les grèves ont été assez faibles en réalité à l'échelle nationale en 2019 comme en 2023. Et la question de l'auto-organisation, c'est-à-dire le fait d'animer la grève, d'arriver à faire venir les gens, de les faire discuter dans des assemblées générales, pour justement intensifier la mobilisation. Comme ça, pourquoi, par exemple, en 95, par exemple, c'est vieux, effectivement, c'est il y a 30 ans, etc. Bon, on n'a pas eu beaucoup de commémoration, d'ailleurs, d'une très grande victoire sociale et syndicale, mais parce qu'il y a un très fort niveau, non seulement de grève, en fait, les manifestations sont plus petites en 95, en termes de nombre de gens dans la rue, qu'en 2023, hein, sur les retraites. Là, sur le plan Juppé, il y avait moins de monde dans la rue, en cumulé, mais plus de grèves dans des secteurs assez décisifs et avec des structures d'auto-organisation dans plein de villes où on retrouvait les électriciens, les gaziers, les cheminots, les instits, etc., qui s'organisaient, qui se mobilisaient et qui massifiaient la mobilisation. C'est ça, il n'y a pas de solution miracle en quelque sorte là encore, c'est le type de voie qu'on doit essayer de trouver pour gagner. D'une certaine manière, les mobilisations écolo le font avec leurs moyens, sur leur propre terrain, par exemple en sortant de leur zone de confort, comme on dit. Ils sont allés voir la CGT, par exemple. Je veux dire, c'est pas pour des écolos il y a 20 ou 30 ans, leur dire vous allez construire une mobilisation avec la CGT. Oh, je sais pas, CGT, c'est productiviste, etc. Bon, Sainte-Soline, la mobilisation, elle a été aussi construite avec des militants de la CGT. Donc, voilà, ça nous donne un peu une voix sur justement qu'est-ce que ça veut dire dans les mobilisations sociales, l'unité et la radicalité, en termes de pratiques militantes et de renouveler aussi le répertoire un peu de pratiques militantes, etc. Et en même temps, de construire les fronts nécessaires pour gagner. Y compris élargir à chaque fois, tenter en permanence d'élargir la lutte à d'autres acteurs, localement, etc. Bon. J'espère que ça répond un peu à la question. Et alors sur la réponse, alors oui, alors sur la lutte écolo, je pense que c'est effectivement important, d'autant plus que il est clair que les forces d'extrême droite dominantes au plan mondial, mais c'est le cas du RN peut-être un peu moins, en tout cas d'une manière plus nuancée, mais sont des forces qu'on parfois on appelle fascistes fossiles ou carbo-fascistes, ou en tout cas qui sont de manière effrayante en réalité pour les conséquences que ça va avoir, dans le cas du trumpisme, mais qui sont farouchement en faveur de l'extraction, de l'extractivisme le plus musclé. Un des premiers trucs que fait Trump, par exemple, en arrivant au pouvoir, c'est de permettre l'exploitation minière des fonds marins. Donc en fait, un extractivisme plus, et qui dépend aussi de la fusion entre... le secteur du capital qui a de longue date soutenu le plus Trump, mais aussi Bolsonaro, par exemple, au Brésil, et un peu partout dans le monde, l'AFD, par exemple, en Allemagne, c'est le secteur du capital fossile. Et qui ont bien compris que ces forces étaient en quelque sorte leurs meilleurs représentants et leurs meilleurs alliés dans le champ politique. Donc, par ailleurs, ça les met malgré tout en porte-à-faux avec des populations qui, assez largement, pas ultra-majoritairement, mais quand même assez largement, prennent conscience du désastre vers lequel on va, si on continue sur cette trajectoire-là. Donc, le RN, justement, essaye d'être un peu malin en essayant de répondre à certaines attentes écolo. Par exemple, par une valorisation totalement superficielle des circuits courts, du localisme, etc. Bon. Mais en réalité, ne peut pas y répondre. Parce que sa politique, fondamentalement, est une politique de soutien aux énergies fossiles et de non-remise en cause du productivisme capitaliste. Bon. Il n'y a pas de solution au désastre dans lequel vers lequel on se dirige s'il n'y a pas une rupture aussi sur ce terrain-là, évidemment. Enfin, et en quelque sorte, la gauche est la mieux placée et le mouvement écolo est le mieux placé comme composante, je dirais, d'une politique d'émancipation pour répondre à ces préoccupations-là qui sont réelles et qui sont parfaitement légitimes et même absolument impératives dans le contexte présent. Et sur la gauche bisounours, en fait, c'est un truc d'ailleurs que... j'avais beaucoup discuté à une époque avec Benoît Coquart justement avec ses enquêtes. Alors lui, son enquête donc en milieu rural, populaire, désindustrialisé, ce qu'il appelle les campagnes en déclin, il pointait ça, c'est-à-dire que la gauche était vue souvent, au moins une partie de la gauche était vue comme bisounours. Et lui, il avait fait son enquête en 2016-2017, mais il disait qu'une partie de ses enquêtés avait été assez attirée pour le coup par la campagne de Mélenchon à l'époque, justement par le fait qu'elle n'était pas bisounours. Qu'en quelque sorte, c'était une gauche qui ne renonçait plus à dire... qu'il y avait de la conflictualité dans la société et qu'il fallait en quelque sorte qu'ils cherchaient à s'accrocher aux affects de conflictualité qui sont très présents dans les classes populaires pour de bonnes raisons. Enfin, je veux dire, vu la dégradation des conditions de travail, de vie, de les services publics, etc. Je le disais, il y a énormément de gens qui aspirent à quelque chose d'autre, quoi. Et si vous avez un discours effectivement bisounours du genre Oui, alors et totalement comment dire technocratique du genre ah oui alors on va toucher au niveau de la CSG et puis on va faire ceci et ça. Enfin évidemment que vous vous adressez pas à ça. Bon. Et il montrait que ces enquêtés avaient été par exemple marquées par le débat entre Mélenchon et Le Pen où Mélenchon avait un peu poussé Le Pen dans ses retranchements sur la question par exemple de l'avortement, droit à l'avortement. Et où Marine Le Pen, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, était restée silencieuse pendant très longtemps, avait refusé de répondre, c'est une scène assez incroyable d'un point de vue télévisuel. Parce qu'en fait, Mélenchon assumait ce degré-là de conflictualité. Et c'est pour ça que je suis assez sceptique sur l'idée que il faudrait simplement apaiser les gens, leur passer un peu la pommade, ça va aller mieux. Non, mais je peux te passer la pommade quand même. Hein. Mais qu'on va défracturer la société française. Non, d'une certaine manière, il faut nommer la conflictualité au cœur de la société française. Mais il faut la nommer à notre manière. Évidemment, l'extrême droite cherche à nommer à partir du clivage, en gros, pour faire vite, national-racial ou national-étranger, etc. Mais nous, il faut en caisse retrouver le chemin historique de la gauche auquel a renoncé le Parti socialiste dans les années 80-90, mais aussi en partie le Parti communiste à l'époque de Robert Hue, qui était de nommer les clivages, par exemple, ne serait-ce que de classe. De nommer les classes, la bourgeoisie, le patronat, des mots qui ont l'air d'être hyper ringards, qui ont été ringardisés dans les années 80-90, mais qui permettaient à des millions et des millions de gens pendant des décennies de nommer la conflictualité au cœur de la société. Alors, ce n'est pas les seules conflictualités. Bien sûr, il y a les conflictualités sur le terrain féministe, sur le terrain antiraciste, etc., y compris sur le terrain environnemental. Mais voilà, il faut porter ce... Pour moi, répondre aux défis sur... vous êtes des bisounours, vous pensez que... Mais même, par exemple, sur ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est si on mène les politiques qu'on veut mener, il faudra assumer un niveau de conflictualité avec le patronat parce qu'ils n'accepteront pas qu'on revienne sur des décennies de précarisation de la main-d'œuvre dont ils profitent à travers les bénéfices, etc. Bon. Il faut le dire. Il faut dire... nous voulons gagner le pouvoir et nous allons avoir des batailles très dures à mener avec le patronat parce qu'ils ne veulent pas du type de politique qu'on va mener. C'est pas un discours peut-être très... mais je pense qu'il faut préparer, y compris se préparer en tant que syndicaliste, etc., mais se préparer à l'idée qu'il y ait pour tout changement social, il y aura de très grandes épreuves. Enfin, on est à l'anniversaire de 36, les congés payés, les deux premières semaines de congés payés, les délégués du personnel et les conventions collectives, plusieurs semaines de grève avec occupation des usines en mai-juin 36, quoi. Et c'était pas dans le programme d'ailleurs du Front Populaire et des forces du Front Populaire, mais ça a été gagné par la lutte. Donc il faut en quelque sorte réitérer ça qui a été un peu perdu au moment où dans les années 80-90 on a estimé que la lutte des classes c'était archaïque, que le marxisme tout ça c'était le monde ancien, le capitalisme et tout ça, on était à entrer dans l'économie de marché, tout le monde y profitait, ça allait ruisseler, tout le monde voilà. Donc je crois qu'en plus il y a les sondages par exemple qui montrent que une large majorité des gens ils croient que la lutte des classes elle existe quoi, par exemple. Et pourtant, la gauche ne parle plus de lutte des classes depuis les années 80, ou une bonne partie de la gauche. On s'est dépossédé nous-mêmes, je veux dire, la gauche sociale et politique, du discours qui avait mobilisé en quelque sorte les classes ouvrières, les classes populaires depuis le milieu du 19e siècle, parce qu'on a accepté en quelque sorte le miroir que tendaient les droites sur le fait que vous défendez une vision ringarde. Alors évidemment, ça a été facilité par la chute du Bloc de l'Est, etc., bon, et toute l'offensive anticommuniste, anti-gauche, anti-socialiste, anti-travailleur de l'époque. Mais voilà, je m'arrête là. Mais donc, pour moi, la réponse, c'est par rapport à ce portrait de la gauche bisounours, c'est non, nous savons qu'il y a de la conflictualité, nous savons qu'il y a des divisions, mais justement, nous allons prendre en charge en quelque sorte cette conflictualité et nous allons nous affronter en quelque sorte aux véritables adversaires de la majorité du peuple et des classes populaires, etc. Voilà.